Europe 1, Pierre de Villeneau.
C'est l'heure du club. Le club le dimanche. Et il se trouve qu'on est tous habillés de jeans. Bonjour Diane Chénouda.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Bonjour Nicolas Carreau.
Bonjour Pierre.
Vous avez tous un jean, moi aussi. Et alors justement, si vous vouliez tous savoir sur le jean sans avoir jamais osé le demander, allez sur le site Diane de la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris.
Eh bien oui Pierre, parce que d'un simple clic, eh bien on est plongé dans l'univers du jean. Alors pas la boisson. Hein. Non, je vous parle du bon vieux blue jean sous toutes ses coutures.
Je suis né les pieds dans l'eau en Californie. Il y a presque 150 ans. Je me présente, Mr. Jean.
Alors, ce jean cousu
un
à
jean
partir...
Un jean dans l'eau, bon courage.
Le jean a été cousu à partir d'une toile de tente qui habillait les chercheurs d'or à l'époque. C'est pour ça et que nous portons tous ce jean aujourd'hui, vous l'avez dit, Pierre.
Sur la planète, la consommation de jean se chiffre à plus de 2 milliards par an. À chaque seconde, c'est 73 jeans qui sont vendus dans le monde.
Et rien qu'en France, imaginez, nous consommons 88 millions de jeans par an. Alors évidemment, le revers de la médaille, c'est que cette hyperconsommation est un poison pour la planète. C'est ce qu'on apprend dans un film choc diffusé dans l'exposition. Écoutez l'une des commissaires, Marie Pichard.
Effectivement, on a une pollution au niveau déjà de la culture du coton qui demande beaucoup de pesticides, beaucoup d'eau, mais également au niveau de la teinture puisqu'on utilise des pigments de synthèse et il faut traiter toutes ces eaux usées, c'est pas toujours évident.
Sans compter que pour être fabriqué, un jean fait une fois et demie le tour de la Terre.
C'est extrêmement culpabilisant tout ça.
C'est vrai. Mais, car il y a un mais. Les choses bougent, on a maintenant des jeans fabriqués en France, des jeans aussi beaucoup plus écolos à base de coton bio, de lin, de laine et même de chanvre, si, ou d'ortie, très agréable à porter, nous dit-on. Et puis, on peut chacun agir en ne lavant pas son jean trop souvent.
Il y a quelques recettes, quelques techniques, et notamment les puristes du jean nous ont expliqué que il suffisait parfois de le mettre au congélateur pour que l'odeur s'en aille, ou bien vous l'aérez pendant plusieurs heures dehors, et effectivement votre jean va retrouver une santé.
Voilà, alors moi je pense que j'hésiterais quand même à mettre dans mon congèle la robe tout jean signée Jean-Paul Gaultier qui est dans l'expo avec ses seins iconiques. C'est rock'n'roll le jean.
C'est rock'n'roll. Jean, exposition à découvrir en ligne sur le site de la Cité des Sciences et de l'Industrie avec aussi des visites en ligne interactives et payantes qui seront organisées dès le 18 décembre. Merci Diane Chénouda. En jean ou pas, vous lisez mon cher Nicolas Carreau, qu'est-ce que vous avez trouvé?
Le prix interallié. Irène Frein, un crime sans importance au Seuil qui vient d'avoir le prix interallié.
Bien mérité.
Le titre ressemble un peu à un polar, ça y ressemble parfois, mais c'est en fait un récit intime et incroyable. C'est l'histoire de Denise, 79 ans, qui est dans le coma à l'hôpital, qui va mourir très vite de ses blessures. Elle a été agressée dans sa maison d'une banlieue pavillonnaire, pas très très loin de Paris. On ne sait pas qui est l'assassin, et au bout d'un an et demi, on ne sait toujours rien, parce que la justice, la police, ça va très très doucement sur cette affaire. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que Denise, c'est la sœur d'Irène Frein dans la vraie vie. Et c'est une sœur avec qui Irène Frein avait un peu rompu les liens, etc. Et devant le silence, en fait, de cette justice, Irène Frein décide de tout simplement d'enquêter, de se transformer en Sherlock Holmes. Mais vraiment, je ne sais pas si vous voyez Irène Frein, mais c'est mais elle y va, elle met les mains dedans, elle met les mains dans les dossiers de justice, etc. Elle bouscule les institutions, elle enquête. Il y a un côté Sherlock Holmes, mais tout est vrai. Donc on est à la fois fasciné par les rebonds et en même temps, on se rappelle sans arrêt que c'est une histoire vraie et une histoire intime, parce qu'en même temps, Irène Frein retrace aussi l'histoire et les blessures de sa famille, les secrets, les dissensions, etc. C'est un livre sur un crime qui ne suscite aucun intérêt, et une vieille dame assassinée, dans une petite ville. Il n'y a pas de sexe, pas de vedette, pas d'argent, et ça n'a aucune importance. Et Irène Frein en fait un livre merveilleux.
Le titre ?
Un crime sans importance.
Un crime sans importance au Seuil. Merci Nicolas Carreau. Et puis pour ceux qui aiment la BD, je signale la sortie du dernier Black et Mortimer. Le cri du Moloch, c'est tout simplement la suite de L'onde Septimus par Jean Dufaux. Donc c'est le même auteur qui reprend. Vous savez, Ulrich est enfermé dans un hôpital psychiatrique. On essaye de soutirer des secrets. Et puis cette onde Septimus, on a l'impression que c'est pas totalement fini cette histoire. Voilà le 27e opus de Black et Mortimer avec toujours cette ambiance très londonienne. Il fait froid, c'est le brouillard, on est dans Londres, il y a un mystère, il y a Ulrich, il y a Blake et Mortimer qui enquête, il y a Winston Churchill qui est parfaitement représenté, mais vraiment dans toutes ses apparences, ses attitudes, ses expressions, c'est du pur jus anglais et c'est génial, c'est Blake et Mortimer.
Ça donne envie quand même.
Merci à vous deux.